des mots pour le dire. Dominique Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Au cours de cette série d'émissions, nous explorons, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, l'univers des larmes, tour à tour universelles, enfantines pleines d'émotions ou de compassion. Les larmes nous révèlent parfois à nous-mêmes.
Je t'aime.
Encore, non, ça va pas.
Mais je ne peux pas.
Mais c'est... si, tu peux.
Non, je ne peux pas faire ça. Mais c'est trop.
Allez. T'as un contrat, t'es payé pour
mais
ça.
Mais j'aime pas.
Tu fais ce qu'on te demande. Allez.
Mais
pas de mais, pas de commentaires. Allez, allez, vas-y. Voilà. Sens-le bien. Sens-le. Sens-le.
Bien. Bien.
Mais si de la vie, tu l'aimes. Allez, vas-y. Encore. Encore.
Bien.
Encore. Allez, allez, allez. Allez, si tu l'aimes. Je t'aime encore.
Encore. To say goodbye.
These are the words we use to say goodbye.
Contraste entre la fragilité de Romy Schneider dans le film L'important c'est d'aimer, où elle incarne le rôle d'une petite actrice, et la dureté de l'équipe de tournage, illustrée par cette voix hystérique de la metteur en scène. Au final, on assiste à une très émouvante scène de larmes sur le visage de la belle Romy Schneider. Docteur Dominique Desmichel, les larmes, c'est toute la fragilité d'un être qui se révèle dans les larmes.
Oui, je crois qu'on a commencé à voir un peu dans les émissions précédentes que les larmes, elles appartiennent à quelque chose qui est de l'ordre du corps, quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit et quelque chose qui est de l'ordre du cœur. Et que cette émotion qui accompagne, qui précède et qui suit souvent les larmes appartient à l'intime, au secret, et que ça dit en effet la fragilité humaine, dans le sens où ça vient dire quelque chose d'une faille qu'on porte à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça, au fond, qu'il y a quelque chose qui sort. L'émotion, c'est le mouvement qui sort. Les larmes sortent aussi, ça coule, comme quand on saigne, finalement. Hein. D'un côté, il y a le sang, de l'autre côté, il y a les larmes, des larmes tristes, et en même temps, des larmes qui sont chaudes aussi. Probablement, on pourrait penser, peut-être l'extrait de film que vous venez de présenter en témoigne, celle d'une sorte d'amour meurtri, impossible, blessé ou disparu. Hein. C'est pour ça qu'il y a les larmes des endeuillés, il y a les larmes des nostalgiques aussi. Hein. Nostos, c'est le retour en grec. Et puis, algie, tout le monde connaît ça, hein, névralgie, une lombalgie, une dorsalgie. Algie, algo, c'est la douleur.
Puis il y a cette expression « fondre en larmes ». Est-ce que c'est tout le corps qui devient liquide et qui s'écoule avec les larmes, tout le corps, tout l'être en tout cas?
Oui, probablement. En tout cas, il y a toujours une globalité. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas pleurer simplement avec ses yeux, ou on ne peut pas pleurer simplement avec, je ne sais pas, une toute petite partie de soi-même. Hein. Ça nous prend dans notre globalité et dans notre fragilité. Mais ce qui me semble important aussi de souligner, c'est que au cœur de cette faille qui voit jaillir les larmes, il y a quelque chose de l'ordre d'une attente, d'un désir, probablement toujours d'en faire quelque chose ou peut-être de partager avec quelqu'un d'autre.
Cette fragilité, donc on la retrouve bien sûr d'un côté féminin, chez l'enfant, on en a déjà parlé.
Oui, je pense que c'est sûrement associé au côté féminin, mais il faut se rappeler que le côté féminin, on le retrouve autant chez la femme que chez l'homme,
ouais, hein,
et que chez l'enfant. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'opposé d'un masculin si on se dit que le féminin, c'est l'ouverture, la réceptivité, l'accueil, les sentiments, les émotions, quand le masculin serait du côté d'une sorte de puissance, du côté du savoir. Donc, il y a une sorte d'impuissance hein, ou d'aveu d'impuissance dans les larmes. Quand on pleure, on accepte quelque part de lâcher, de capituler. Il y a ce liquide qui surgit, qui dépasse, qui nous déborde. On a appris très tôt, quand on était enfant, vous évoquiez l'enfant aussi tout à l'heure à propos des larmes, on a appris très tôt que tous ces liquides qui s'écoulent hors de nous, ils doivent être contenus. Hein. Le pipi, c'est la même chose, le caca, c'est la même chose, les larmes, c'est aussi dans ce même registre. En même temps, il y a, dans ces trois espaces, dans ces trois liquides ou dans ces trois matières-là, il y a quelque chose qui s'écoule. L'eau monte dans les rivières, ça monte à l'intérieur de nous-mêmes, et puis, ça s'écoule. Donc, je crois que, oui, c'est juste de reprendre l'idée de fondre en larmes, parce que c'est monté, et puis, d'un seul coup, le barrage cède, et puis les larmes arrivent.
Dans cette fragilité, il y a également beaucoup d'abandon.
Oui, il y a de l'abandon parce que pleurer, c'est accepter une certaine forme d'impuissance. Hein. Si on est dans une puissance ou dans une volonté de maîtrise, raison de plus si c'est une toute puissance, alors on ne peut pas pleurer. C'est pour ça qu'on peut d'ailleurs se rappeler que il y a quelque chose qui est différent entre le rire et le pleur et les larmes. Parce que dans le rire, il y a une forme de puissance. On se moque de quelque chose, on rit, on est gagnant. Même ceux qui rient ensemble, ils gagnent ensemble. Hein. Ils s'amusent, ils ouvrent quelque chose. Et puis souvent, quand même, on rit aux dépens d'une situation, on rit aux dépens de quelqu'un, on rit aux dépens d'un petit drame, au fond. Hein. Donc, il y a une inégalité et il y a une forme de puissance. Tandis que pour pleurer, il faut rendre les armes, abandonner pendant un temps ces systèmes de défense et accepter, au fond, que l'émotion prenne le dessus. Il faut donc, d'ailleurs, le pouvoir. Je crois, d'ailleurs, on peut se rappeler que les très très grandes souffrances, elles sont souvent entre guillemets sèches, c'est-à-dire lorsque on a quelque chose qui va nous saisir de manière absolument terrible, eh bien on arrête de pleurer. Et je pense que dans des situations très dramatiques, comme l'histoire a pu en témoigner, on pouvait percevoir que les gens qui étaient dans une situation extrêmement terrifiante, ils n'étaient plus à même de pleurer, comme si tout s'était tari, même cette capacité à lâcher. Voilà, peut-être dans certaines circonstances aussi, d'ailleurs lâcher, ça peut être dangereux. Et je crois que dans cet espace de ces souffrances indicibles, on serait revenu à une sorte de désert. Vous voyez, dans le désert, il n'y a plus d'eau. Et on sait bien que dans le désert, il n'y a plus de vie. Hein. Donc quand il y a une souffrance qui est très grande, c'est comme si tout s'asséchait. Comme si la puissance de vie que représente l'eau, et donc ici les larmes, n'était plus présente. Hein. Tout devient sec. Chacun sait que l'on pourrait noyer son âme dans les larmes du chagrin, certes, mais il y a au fond de la vie parce qu'il y a de l'eau. Et on vient de nous dire que peut-être on avait trouvé de l'eau sur Mars, ce qui veut bien dire que l'eau est associée à la vie. Donc on sent que dans les larmes, il y a quelque chose de tragique, il peut y avoir quelque chose autour du deuil, il y a quelque chose d'extrêmement lourd, mais que l'eau qui s'écoule témoigne aussi de cette puissance de vie potentielle au moins.
Alors a priori, les animaux ne pleurent pas. Peut-être que je me trompe, peut-être que les animaux pleurent. En tout cas, c'est quand même très particulier, me semble-t-il, à l'être humain. Et aussi, donc, à notre rapport aux autres. C'est-à-dire que voir quelqu'un pleurer appelle quelque part chez l'autre un élan de consolation.
Oui, je crois. Alors, consolation, c'est prendre soin. Hein. C'est pas être avec la solitude de l'autre. Hein. C'est prendre soin. Mais en effet, en tout cas, c'est dans cette inter-subjectivité.
Voilà. Hein. Un rapport...
Voilà, peut-être on pourrait presque dire interobjectivité parce que finalement on n'a pas beaucoup accès à la subjectivité de l'autre. Mais vous avez raison, je crois que on ne rit que des autres alors qu'on ne pleure que de soi. Et même quand ça concerne les autres, on pleure parce que c'est son propre vécu qui appelle au fait que l'on pleure ou que ça monte à l'intérieur de nous. Et je crois en effet que les larmes des autres, elles appellent une présence. Dans grand nombre de cas, on pleure dans l'intimité, hein, c'est-à-dire on pleure tout seul, dans sa chambre, dans son bureau.
Parfois... Il faut un certain courage pour pleurer devant les autres aussi,
oui.
Une certaine forme de courage. Oui,
oui. De courage ou de capacité à lâcher,
ou
mais peut-être c'est proche,
lâcher,
c'est
oui,
proche.
Hein,
oui. Et c'est vrai qu'en tout cas, la majorité des gens disent qu'il est plus facile de pleurer seul. Hein. Oui. Moi, je préfère pleurer tout seul. Hein. Alors, je ne sais pas si les oiseaux se cachent pour mourir, mais je crois que beaucoup de gens se cachent pour pleurer. En même temps, c'est cette puissance de vie, il me semble, de l'eau, des larmes. Les larmes, elles appellent tout de même un autre afin d'être accueillies, d'être recueillies, d'être partagées. Un vis-à-vis, un écouteur, un proche, un ami cher, un membre de la famille, ou parfois peut-être l'étranger, hein. Il m'est arrivé, je ne sais pas pourquoi le souvenir me revient maintenant, là, et il m'est arrivé dans un voyage en train d'avoir senti une présence un peu étrange juste à côté de moi, et j'étais dans mon livre ou je sais pas trop quoi. Et en fait, en me retournant, j'ai vu que la personne à côté de moi pleurait. Voilà, donc j'ai attendu un tout petit peu après, puis bon, un tout petit peu de parole, ça a suffi. Et au fond, je me suis dit, ou peut-être je me dis maintenant, je ne sais pas si je me suis dit à cette époque-là, je me suis dit que cette personne-là à côté de moi, peut-être qu'elle n'avait pas pu retenir ses larmes, mais peut-être au fond, elle avait aussi
C'était un appel.
choisi, voilà, choisi de pleurer pour que, pas que ça s'entende, ses larmes étaient parfaitement silencieuses, mais que ça se sente, hein, mais elle n'avait même pas reniflé ni rien du tout. Voilà, et puis du coup, on a parlé, et puis voilà, c'était le temps du voyage qui était assez long, et puis on a parlé, et puis c'est tout, on s'est pas revus après, mais.
Les larmes peuvent être contagieuses alors.
Oui, je pense que les larmes sont contagieuses, elles
On
sont
le voit
pas.
bien dans les films en tout cas.
Oui, je crois,
Bon.
oui, bien sûr, tout à
Puis
fait,
notre
hein.
fil rouge à travers ces émissions, les larmes dans le
Oui.
cinéma, on voit bien
Oui,
que
oui, oui,
on
oui.
pleure beaucoup.
Alors, elles le sont par sympathie, par identification, hein, c'est-à-dire on s'identifie à l'autre, hein, voilà. Mais aussi de temps en temps par compassion, c'est-à-dire on n'est pas dans l'identification, c'est-à-dire pas je me mets à ta place, mais j'ai envie de t'aider, donc de pouvoir souffrir dans une certaine mesure avec toi. Donc il y a cette contagion affective, cette identification à celui qui pleure. Mais il y a aussi de temps en temps le désir de l'aider et de l'accompagner. Au fond, avec cette personne qui était à côté de moi dans le train, ça ne m'a pas du tout donné envie de pleurer, mais juste envie de lui dire, bah voilà, si on cause, peut-être ça va vous soulager. Je ne suis pas sûr que ça ait fait quoi que ce soit, mais ça lui a permis de parler. Tout le monde sait qu'en général, parler, ça, c'est quand même pas plus mal. Voilà, donc je pense que là où manque la compassion. Fondamentalement, là où manque la compassion, il ne va pas y avoir de larmes. Hein. On voit ça en tout cas dans les petits groupes. Hein. Lorsque dans un petit groupe, il n'y a pas la possibilité que le groupe, ou au moins un individu, et que ça soit accepté par le groupe, accepte d'ouvrir cet espace de la compassion, alors celui qui a peut-être besoin de pleurer ne va pas pleurer. S'il y en a un qui dit, on va pouvoir porter ça. C'est-à-dire accepter, sous-entendu, ben vas-y, dis-nous, on sent bien que tu vas pas bien, dis-nous, voilà, ben, s'il faut, voilà. Et si le groupe l'accepte, voilà, c'est-à-dire si le groupe porte la compassion, alors les larmes surgissent.
You would have given me two floors, at least one. You would have given me one more. One more person. Person is there. For this. I could have gone one more person. And I didn't. And I didn't.
Les larmes sont contagieuses, évidemment, comme celles qui coulent à la fin du film La liste de Schindler de Steven Spielberg. Oscar Schindler, incarné par Liam Neeson, fond en larmes et s'en veut terriblement de ne pas avoir réussi à sauver plus de juifs. La foule des rescapés, témoins de la scène, l'entoure et le serre dans leurs bras en silence. Docteur Dominique Desmichel, le silence, les larmes coulent en silence, le royaume des larmes c'est le silence, et puis parfois on n'a plus rien à dire, les mots sont pas assez forts pour consoler, comme on le voit dans le film, on a besoin d'un contact physique, et les larmes c'est aussi quelque chose de physique qui se passe.
Oui, on aurait presque envie de se taire hein, après ça justement, c'est-à-dire il y a quelque chose autour de l'émotion, on pourrait dire, de l'émotion pure. Hein. Ce film, moi, m'avait beaucoup impressionné. J'ai dû le voir deux ou trois fois, ou peut-être même plus. Hein. Et c'est vrai que on parle pas dans ces situations-là. Hein. Quand l'autre pleure, si celui qui l'écoute se met à parler, le plus souvent, ça signifie une forme d'interdiction des larmes. Hein. C'est-à-dire, allez, je te parle, je te raconte des choses, je te ramène dans la vie, ou je te sors dehors, ou je te dis quelque chose pour te distraire.
Oublier ta tristesse, ou voilà.
Voilà. Ouais. Et donc, on est dans une forme de déni des larmes, ou en tout cas presque comme si on posait un interdit. Non, c'est insupportable. Accueillir, en tout cas, les larmes de l'autre, c'est probablement, en effet, rester silencieux. S'il y a une parole qui doit venir, je crois que c'est plus tard. Parce que ce chemin des larmes, partagé avec quelqu'un d'autre, dans le silence, c'est déjà un chemin parcouru, justement. C'est déjà qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a avancé dans ce qui est... dans ce à quoi les larmes invitent, c'est-à-dire explorer cette faille, cette blessure à l'intérieur de soi-même. Donc, même si de temps en temps, il y a des sanglots qui sont un petit peu bruyants, même si de temps en temps, les larmes, ça secoue le corps, ça empêche de respirer, ça nous atteint dans une grande profondeur, et peut-être on voit de temps en temps les gens qui se mettent à respirer très 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 vite, hein, et puis ils peuvent presque perdre connaissance. On sait comment ça se passe, l'hyperventilation s'entraîne une alcalose de type respiratoire, le pH du sang change et on peut perdre un petit peu sa conscience. Donc je crois que quand on a envie d'accompagner dans une juste présence, le silence est la première, et en particulier les bénévoles hein, qui accompagnent les personnes en situation de deuil le savent bien hein, au sein des groupes d'endeuillés hein, tels que Jalmav les accompagne. Il y a très très souvent, pendant une, deux, trois séances, trois rencontres, il y a énormément, énormément de larmes. Ça pleure énormément dans ces groupes, mais je me souviens, les premières fois, les personnes qui accompagnent ces gens-là étaient impressionnées de la quantité de larmes qu'il y a. Il y a des larmes et il y a du silence. Et il y a du silence partagé. Et de temps en temps, voilà, quelqu'un commence à raconter sa peine, et puis ça pleure, et puis les pleurs sont contagieux, et tout le monde pleure, et tout le monde va pleurer en silence. Et puis ensuite, on arrête de pleurer, et on laisse le silence. Et puis, il y a quelque chose de chaud, hein. Il y a quelque chose de chaud, parce que les larmes, c'est chaud.
On est bien dans l'intériorité des larmes.
Voilà, c'est toujours à partir de cet intime partagé, de cette intériorité absolue, profonde, que les larmes trouvent leur source, une source inépuisable. Il y a cette corporéité, c'est-à-dire cette incarnation des larmes essentielles, mais ça s'inscrit, ça s'est planté, ça surgit d'une émotion puissante, d'un trop-plein qui lâche. Et je crois que cette intime, dans une grande mesure, elle nous échappe, et pourtant, en même temps, elle nous appartient. C'est-à-dire, c'est parce que cet intime ne nous est pas suffisamment présent, en particulier dans sa signification, que quelque chose surgit, mais en même temps, ça nous appartient, c'est-à-dire on sait qu'il y a quelque chose à en faire, à savoir que cet intime, il désire être, il veut accéder à notre conscience, comme au fond une part d'ombre qui nécessiterait un éclaircissement, comme une part de notre nuit qui aurait envie d'advenir à notre jour ou qui attendrait le jour. C'est pour ça que je crois que les larmes témoignent et en même temps souvent éclairent, au moins potentiellement, cette intériorité. Pleurer, de préférence avec quelqu'un, c'est extérioriser quelque chose d'une intériorité qui souffre. Hein. C'est le mouvement, c'est l'émotion, c'est il y a quelque chose qui jaillit, Ça vient de l'intérieur, ça souffre, ça demande à être parlé, c'est une peine qui se cherche. Et voilà, les larmes ouvrent ce chemin d'intériorité dans le cadre de l'échange.
Et on ne sait pas toujours pourquoi on pleure. Parfois on le sait, en effet, peut-être sûrement dans le cadre d'un deuil, mais dans le cas d'Oscar Schindler, pourquoi ce moment-là, peut-être parce que c'est la fin du film, mais pourquoi ce moment-là il craque pour... Enfin, il y a un argument un petit peu absurde à ce moment-là. On sent que c'est pas... ou alors c'est une tristesse qui montait au fur et à mesure. Mais en tout cas, pourquoi à ce moment-là, il pleure ? C'est difficile à expliquer, ça.
Dans la liste de Schindler, moi, ce qui me viendrait... J'ai vu ce film il y a un petit peu longtemps maintenant. Ce qui me viendrait, quand même, c'est... Vous dites, c'est la fin du film. Et bien évidemment, vous avez raison factuellement que c'est la fin du film. Mais c'est aussi la fin de quelque chose, hein, puisque c'est probablement, dans une certaine mesure, la fin de la guerre. C'est la fin de ce camp si particulier.
La fin de la mission qui s'était assignée.
Voilà, voilà. Donc probablement, lui, il sent qu'à ce moment-là, il va y avoir quelque chose de son destin. Il avait une mission, en effet, pour reprendre votre mot. Et là, il y a quelque chose qui va se clore et probablement, il va rester sur l'inachevé, parce que même s'il dit en effet qu'il aurait pu sauver d'autres personnes et qu'il n'a pas pu le faire, de toute façon, il y a un accompli qui n'est pas rattrapable. Hein. Et donc, il y a aussi une raison de pleurer. Et la raison de pleurer, c'est parce que ça s'est fait, ça a été tragique, et qu'on n'a pas pu l'empêcher, par exemple.
Il y a toujours une raison, mais elle peut être parfois tellement profonde qu'elle ne saute pas aux yeux. C'est ça que c'est dans ce sens-là... qu'on peut aborder cette question.
Oui.
On revient à cette intériorité des larmes qui est vraiment parfois tellement profonde qu'on a besoin de chercher parfois la raison à un moment donné des larmes.
C'est pour ça que je pense que c'est important de penser les larmes dans ces trois composantes. C'est-à-dire, c'est d'abord quelque chose qui se passe dans le corps. C'est une sensation. C'est-à-dire, je sens que ça monte. Et sauf si je me passe une page de publicité pour, en gros, sortir de mon corps presque, ou de mes idées, ou de ma sensation, ça monte. Donc c'est d'abord une sensation. Et puis c'est évidemment une émotion et un sentiment. Et cette émotion et ce sentiment, c'est un mouvement qui vient de notre intériorité et qui demande à sortir. Le troisième point, c'est en effet ce que vous posiez à propos de qu'est-ce qui s'est passé pour Schindler à la fin de la guerre, c'est est-ce qu'on peut essayer de mettre du sens là-dedans ? Et en fait, moi, je crois que c'est assez compliqué. On pourrait reprendre l'idée que vous aviez donnée il n'y a pas très longtemps, là, sur fondre en larmes et sur l'idée du débordement. Le chemin des larmes, c'est toujours, il me semble, quelque chose de l'ordre d'un trop-plein. D'un trop-plein d'existence ou d'inexistence, probablement, en tout cas, d'un trop-plein à l'intérieur de soi-même, qui nécessite quelque chose. C'est-à-dire, on ne peut pleurer que pour de bonnes raisons. Hein. De temps en temps, on peut rire pour des raisons qui sont un peu discutables. Mais on pleure toujours pour des bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons irrécusables. On sait bien que les larmes ne disent rien en même temps qu'elles disent tout. Alors, où est-ce qu'elles mènent ? Et moi, je vous propose d'essayer de voir ça en plusieurs parties. C'est-à-dire de reprendre l'idée d'abord que les larmes, elles invitent au cœur de l'être. C'est-à-dire, elle nous invite à plonger dans cette intériorité dont on a parlé. Que ces larmes, elles ont leur source dans une faille d'être. Donc, j'ai dit que ça rejoignait quelque chose de l'être. Mais que là, il y avait une faille, un lieu d'ombre, on pourrait dire. Et que dans cette faille, il y avait un appel. Et que le troisième espace, ça serait que ces larmes, parce qu'elles montent, il y a une dimension verticale. C'est-à-dire, il y a une invitation à une ouverture à soi, à l'autre, et peut-être, au fond, aussi à une forme de transcendance. Hein ?
Alors, reprenons ces trois points un peu plus dans le détail. Les larmes, c'est un chemin qui ouvre à l'être.
Voilà. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'on a des signaux à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Par exemple, on a mal quelque part. Si on a mal quelque part, on a mal au gros orteil, ben on va aller voir. Est-ce que c'est la chaussure ? Est-ce que j'ai une verrue ? Est-ce que je me suis blessé ? Est-ce que mon ongle est trop long ? C'est une sensation, mais qui renvoie avant tout à quelque chose qui est très factuel et très localisé. Ici, l'émergence des larmes, je crois que ça se fait toujours à hauteur d'être. C'est-à-dire dans l'essence même de l'humain, toujours au-dessus de ce qui fait le quotidien. Dans les larmes, c'est jamais un truc banal qui est en question. C'est toujours au fond une forme de quintessence. Et je crois que ce lien étroit entre l'être et les larmes rend compte de leur prix. Elles ont ce prix, il y a le prix des larmes, parce que les larmes sont dans l'être. Le chemin des larmes, c'est cette ouverture intérieure dont on a parlé, vers une sorte d'espace très mystérieux à l'intérieur de nous-mêmes, vers l'indicible. C'est pour ça que probablement le mensonge n'est pas compatible avec les vraies larmes ou avec les larmes vraies. L'arme, on pourrait dire, c'est de l'eau de l'être. Hein. Ça s'origine dans cet espace où on n'est pas allé voir, mais où on sait qu'on existe très profondément.
Cet espace, c'est le lieu d'ombre dont vous avez parlé tout à l'heure ?
Voilà, je crois que c'est un espace qui se situe dans une faille d'être, un espace en creux, un lieu d'ombre où je reprendrai votre terme.
Alors comment pourriez-vous définir ce lieu d'ombre ?
Voilà, il y a les montagnes, et en gros les montagnes c'est au soleil. C'est le lieu où il fait bon vivre. Et puis dans les vallées, il y a quelque chose qui est plus en profondeur. Or on sait bien quand même qu'au creux des vallées, même si elles sont plus à l'ombre, c'est là aussi où il y a les rivières. Donc je crois que, c'est-à-dire les rivières, en l'occurrence des rivières de larmes ici, hein. Donc je crois que les larmes ne surgissent jamais, pour reprendre la métaphore là, elles ne surgissent jamais des sommets, mais toujours des abysses de l'être. C'est dans les profondeurs des vallées, dans les creux des rochers que surgissent les larmes, c'est-à-dire dans ce lieu d'ombre, dans ce lieu d'être ombrageux où on ne s'appartient pas. Dans ce lieu-là, il y a un appel, il y a une invitation au sens. Je crois que dans ce lieu où l'on pleure, finalement, on n'y est jamais allé. Hein. On n'y est jamais allé parce que si on y est allé et qu'on l'a exploré, ça n'est plus un lieu d'ombre. Cet espace-là en creux, il nous invite à quelque chose, à un projet d'être. Comme si on pouvait dire il a envie d'exister, c'est-à-dire d'être hors de soi-même. Il était tapis dans notre ombre, et puis, voilà, exister, vous savez dire, ça veut dire étymologiquement être hors de soi-même. Donc sortir de l'ombre, sortir de cette faille d'être. Je crois que quand l'ombre se révèle, les larmes jaillissent, ou dit à l'inverse, quand les larmes jaillissent, c'est qu'il y a un lieu d'ombre qui appelle, qui convoque, qui nous convoque, pour devenir plus clair à l'intérieur de nous-mêmes.
Ce chemin qui part de l'ombre amène aussi vers quelque chose, vers une transcendance, vers l'autre, et peut-être vers l'autre avec un grand A, le divin.
Moi, je pense que notre identité, ou notre condition de sujet, ou notre subjectivité, elle ne se construit jamais tout seul. Hein. Elle se construit dans la relation à l'autre. Donc je crois que même si cette part d'ombre qui réclame son éclairage, peut se situer dans quelque chose qui se situe avant tout entre nous et nous, par exemple entre nous et notre mémoire, notre passé, notre filiation, une sorte de solidarité transgénérationnelle, par exemple. Hein. Je pleure sur mon grand-père qui n'a pas pu pleurer, par exemple. Hein. Ça va pouvoir s'exprimer, se déployer et se déplisser dans la relation avec l'autre. Donc, qu'il s'agisse au fond d'un absent, d'un défunt, d'un amour perdu, d'un rêve qu'on n'arrive pas à mettre en scène, cet autre qui manque, ce disparu, il doit être intériorisé dans le cadre d'une relation à l'autre. Et chacun sait que si du côté de l'histoire ou de l'événement, le deuil est associé à la mort, il est en tant que processus associé à la vie. Donc, les larmes, c'est un processus vivant, et ça se joue dans la relation à l'autre. Donc, un chemin de soi, un chemin de l'autre intérieur, et puis une rencontre avec l'autre. Ce proche, ce moins proche, ou parfois même cet étranger qui passe, comme le bénévole accompagnant, hein, témoigne de quelque chose. Et dans la chaleur des larmes, par son contenu d'appel à l'autre, ce chemin ouvre à une rencontre et un partage. Je pense en plus que dans certaines circonstances, celui qui est appelé, c'est peut-être le tout autre. Donc on pourrait dire, dans une certaine mesure, le divin, c'est-à-dire ce tout autre est l'interlocuteur qu'il faut, dans une sorte de chemin un peu de dépassement, de transcendance, comme vous disiez tout à l'heure. Je crois au fond donc que le chemin des larmes, c'est un vrai parcours d'humanité pour nous tous. Il nous invite au fond à travailler ces failles, j'ai dit plusieurs fois, ces écueils, ces blessures de l'immanence de la vie, en nous invitant à une forme de transcendance qui, le plus souvent, est la seule à pouvoir donner du sens à notre existence.
Des mots pour le dire, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons dans 15 jours, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, pour poursuivre notre exploration de l'univers des larmes.
I've seen the end of the day come too soon. Not a lot to say, not a lot.